ma foi, j'y crois. Ma foi, j'y crois.
Ma foi, j'y crois.
Une émission de Benoît Petit.
Aujourd'hui, avec Monsieur Jean-Baptiste Gaillard. Bonjour et bonne année.
Bonjour, Benoît.
Merci de vous être déplacé aujourd'hui, cette semaine,
plaisir.
Un petit peu de vacances. Un plaisir, oui, mais en fait, vous savez, moi je suis un peu inquiet parce que nous avons tout pour nous opposer. Vous êtes athée, vous êtes en fait écologiste, vous avez dit que vous êtes pour une nouvelle culture et même, je crois, lorsqu'on discute, pour une nouvelle religion. Mmh. Alors, moi qui suis sociologue du fait religieux et de la laïcité, ça me donne un petit peu des boutons, mais je veux être neutre dans mon analyse et surtout je vois votre beau sourire et en plus je vous connais, vous êtes tellement paisible dans vos convictions que c'est vraiment un plaisir de discuter avec vous. Nos auditeurs vont vous connaître. Une nouvelle culture, Gaïa.
Gaïa, la théorie Gaïa. Et oui, je m'inspire de Bruno Latour, dont je vous ai prêté le livre. Bruno Latour, qui a publié « Face à Gaïa » en 2012. Et Gaïa, c'est cette déesse grecque de la nature, de la vie. Et donc moi, je crois en l'écologie. Je crois en Gaïa en le sens que je crois en l'avenir de la vie sur Terre. La vie aujourd'hui, elle est en train de dépérir sur notre planète. La planète se dévitalise.
Mais vous ne voulez pas nous faire peur et vous avez dit que vous allez commencer par deux petites métaphores ou paraboles.
Je veux au contraire annoncer une bonne nouvelle, c'est que malgré le cataclysme écologique qui est en cours, malgré l'écocide, malgré la disparition accélérée des espèces, eh bien, il y a un avenir possible. Et c'est le sens de la chanson que j'ai choisie. C'est l'histoire de l'impossible, c'est Peter Van Pelt. Mais on y reviendra.
Dans 5 minutes au moment d'une petite pause musicale. Et je voudrais dire d'abord que nous nous sommes rencontrés plusieurs fois, mais surtout la dernière fois, en rencontre avec Aussieux, où vous nous avez, avec plusieurs amis, parlé de la fraternité. Et votre réflexion, en fait, elle démarre il y a 3 milliards d'années.
Il y a 3 milliards d'années. Il y a une petite bactérie qui va faire la rencontre d'une archée qui est aussi un être unicellulaire.
Pas de grands mots, s'il vous plaît, nos auditeurs, peut-être, ils sont en train de faire la vaisselle.
Ce sont des êtres vivants très très simples qui n'ont une seule cellule. Vous voyez,
oui.
Vous et moi, on est des animaux, comme tous les animaux, et comme toutes les plantes et comme tous les champignons, on est multicellulaire. À cette époque-là, il y a 3 milliards d'années, il n'y a pas encore d'être multicellulaire avec plusieurs cellules.
Il y a déjà l'ADN ?
Il y a déjà le code génétique. Et il y a deux familles de codes génétiques, uniquement deux. Il y a les archées et les bactéries. Les bactéries sont très très simples. Les archées sont encore un peu plus proches de nous, elles sont un peu plus sophistiquées, plus compliquées. Mais pour autant, aucune des deux n'a de noyau. Aucune des deux familles, archées et bactéries, n'a commencé à être en multicellulaire. Donc elles sont très très simples, toutes les deux. Et la petite bactérie vient voir la grande archée en lui disant « Écoute, toi et moi, on a le même problème. Toutes les deux, on doit se protéger des virus qui ont déjà commencé à faire des attaques. Il faut qu'on se protège de notre environnement. Il faut qu'on maintienne notre membrane qui fait la différence entre l'intérieur et l'extérieur. Et puis aussi, il faut qu'on se produise de l'énergie. » Alors, la molécule de l'énergie biologique, c'est méconnu, mais ça s'appelle l'adénosine triphosphate. On apprend ça en première année de biologie. C'est l'ATP. Et donc, toutes ces cellules, elles produisent déjà de l'ATP. C'est avec ça qu'elles font leurs mouvements, leurs réactions chimiques. Elles en ont besoin. Et donc, la petite bactérie lui dit, tu vois, toi et moi, cher archée, moi, je suis une bactérie, toi, une archée. Toutes les deux, on fait de l'ATP. On en a besoin, c'est notre énergie. Mais on a aussi besoin de se protéger de l'extérieur. Alors, je te propose un deal, un contrat. Un arrangement. Moi, je m'occupe plus que de faire de l'ATP. Je te produis de l'ATP pour toi. Tu n'as plus besoin de savoir en faire et de te fatiguer à en faire. Et toi, en échange, je me mets à l'intérieur de toi et tu me protèges.
C'est une alliance, alors. Et ils vont fabriquer de l'énergie, si je vous ai compris.
Ils fabriquent de l'énergie ensemble et la grande archée protège la petite bactérie. De l'extérieur.
Oui, mais Dieu dans tout ça. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu. Et vous vous dites, vous êtes athée. Vous n'avez pas besoin de Dieu comme Freud ou comme d'autres personnes qui travaillent sur la relativité du cosmos.
J'ai besoin d'espoir. J'ai besoin de croire en l'avenir. Et cette croyance en l'avenir, elle passe par l'idée que, eh bien, il va y avoir une revitalisation, que cette revitalisation, elle dépend de notre culture. Et on est tous dans une culture évolutive. Cette culture qui évolue, elle peut se transformer, si on le désire très fort, tous ensemble, en une culture qui tend vers plus de vie dans l'univers. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de vie sur Terre, c'est dommage, mais c'est la conséquence d'un projet très ancien qui a commencé avec l'écriture, la sédentarisation il y a 2000 ans.
L'urbanisation ensuite.
Voilà, l'agriculture, on voulait dominer, contrôler, maîtriser la nature. Maintenant, mais on la maîtrise presque trop.
Y a-t-il donc explosion de la vie alors que vous dites qu'il y a moins de vie ?
C'est une
question du CO2, c'est une question de...
Il y a moins d'espèces vivantes, il y a moins de plantes, il y a moins d'animaux, elles disparaissent ces espèces.
Pourtant, nous ne connaissons pas toutes les espèces, tout l'univers.
Eh oui, on sait qu'il y en a de moins en moins alors qu'on ne les connaît pas toutes. Et donc, dans ce mouvement-là, moi, l'espoir que je souhaite porter, la bonne nouvelle que j'ai envie d'annoncer, c'est qu'il va y avoir, hein, possiblement, mais ce n'est pas garanti sur facture, il va y avoir, si on se le crée, si on y tient, et si ensemble, on construit cette culture de l'écologie, il va y avoir un regain de biodiversité, le grand regain de biodiversité, par opposition au petit regain. Le petit regain, c'est quoi ? L'être humain a fait tellement de bêtises qu'il disparaît. Eh bien, la nature reprend son cours comme avant, et petit à petit, des espèces apparaissent. Mais le rythme d'apparition d'une nouvelle espèce, Darwin l'a montré, c'est une espèce tous les milliers d'années à peu près. Hein. Chez les plantes, ça va plus vite, les insectes aussi plus vite, mais c'est très lent. Le grand regain, par opposition au petit regain, c'est l'humanité ne disparaît pas. Et au lieu d'avoir un regain de biodiversité très lent, comme au rythme naturel, c'est un rythme culturel, c'est un rythme intentionnel. C'est nous, les êtres humains, qui avons ce nouveau projet de faire croître et embellir la vie sur Terre.
Moi, nous, on, je ne sais pas trop qui c'est, et je vous ai demandé, mais vous vous appelez Jean-Baptiste, dit oui, je suis le nouveau prophète, nouvelle religion, Gaïa. Alors, vous savez bien que Jean-Baptiste, il a terminé mal en annonçant le Messie, il s'est fait couper la tête.
Non, mais je dis
c'est
ça pour
des
rigoler,
mythes aussi.
Ce que je voulais dire en rigolant, ce qui n'est pas sérieux, c'est de prétendre que je serai un prophète d'une nouvelle religion. Ça, c'est pas vrai. Je suis un peu réaliste. J'aime bien m'amuser à faire à l'apôtre, hein, l'apôtre de Gaïa, ça oui, mais je n'ai pas envie qu'il y ait à nouveau des guerres de religion.
Et vous n'êtes pas pour du prosélytisme, vous voulez convaincre de la fraternité. C'est pour ça que vous nous avez apporté une belle musique.
Who served the lion's hungry and
Ma foi, j'y crois, avec Benoît Petit.
Aujourd'hui, avec Jean-Baptiste Gaillard, vous êtes écologiste, passionné par Gaïa, et vous vous demandez si l'écologie n'est-elle pas une nouvelle culture. Vous venez nous présenter vos vœux de bonne année en ce début 2022, et vous venez aussi nous parler de ces métaphores, de cette allégorie qui sont des explications de notre crise actuelle et puis de notre représentation du monde. Vous êtes athée, c'est là où notre dialogue se passe dans la fraternité, puisque nous nous étions connus lors d'une rencontre il y a à peine 3 semaines au Vieux Temple avec Jean-Marcel Piriou, qui était déjà venu ici de Tradition Humaniste. C'est un athée comme vous, mais il y avait aussi Philippe Jarry de Tradition Chrétienne que nous avions accueilli ici, que nous avons écouté avec beaucoup de plaisir, parce qu'il nous parle d'Émilie qui voudrait croire. Et puis, il y avait aussi Nadine Zimmermann et Alain Klarsfeld de Tradition juive pour montrer votre ouverture d'esprit lorsque vous discutez avec Nicolas Brun de Tradition bouddhiste ou de Stéphane Garros de Tradition musulmane. Mais vous me disiez, oh non, toutes les religions, pour moi, c'est un petit peu le monothéisme, c'est le patriarcat. En deux mots, la musique que vous nous avez apportée, c'est pour nous dire votre joie de vivre, votre optimisme.
Peter Von Poel, c'est l'histoire de l'impossible, The Story of the Impossible. Et cette histoire de l'impossible, c'est une musique que j'ai choisie parce que c'est un petit peu comme l'histoire de la vie future. On se projette dans un futur de la vie sur Terre. Si on suit la tendance, eh bien, ça a l'air d'aller vers de l'impossible. Mais cet impossible peut se réaliser.
Il y a l'imagination et puis il y a aussi la science qui nous permet d'être optimistes. Et vous êtes poète également. Vous êtes photographe. Vous avez mis sur le site de la radio, pour ceux qui veulent podcaster, cette image que je trouve magnifique, mais qui me fait un petit peu peur.
Oui, c'est un insecte. C'est une...
Mutant.
Non, c'est une représentation de la magicienne dentelée, en anglais sagapedo, en latin aussi. Et c'est un insecte qui est très difficile à observer, qui est plutôt nocturne, et qui se reproduit par parthénogenèse. Et donc, il y a la particularité, il n'y a que des femelles. Il n'y a pas de mâles. Elle n'a pas besoin d'avoir des mâles, puisqu'elle ne se reproduit pas par la sexualité.
Alors là, vous nous parlez de choses qui sont compliquées, qui est l'angoisse de l'homme face à la femme, ou de la femme dans sa violence des rapports conjugaux, parfois, mais pas seulement dans l'amour dont peut-être nous parlait le pape François, le plaisir de l'amour et la construction de la famille. La sexualité, c'est comme la violence de la nature ou la violence de la lutte des classes. Ça fait partie de notre condition humaine. Alors, pour vous, il n'y a pas de péché originel. Pour vous, il n'y a pas de ces frustrations que certains diraient, les blessures narcissiques, que Freud a analysé au niveau de l'inconscient ou bien du masochisme. Mais Copernic, pour vous, c'est cette révolution qui a fait que l'homme n'est plus au centre du monde et la Terre au centre...
Copernic et Galilée sont des personnes qui ont provoqué, dans le monde scientifique, c'est connu, une révolution. Et parce que à partir de Galilée, la Terre n'est plus la seule planète, elle n'est plus au centre de l'univers. On s'aperçoit que, comme les autres planètes du système solaire, la Terre tourne autour du Soleil. Et donc, à cette époque-là, c'est une grande révolution. Ce que nous dit Bruno Latour, dans Face à Gaïa, c'est que, d'après lui, la théorie Gaïa, elle est une révolution dans l'imaginaire et dans la science aussi importante que celle de Galilée à son époque. Ce qui veut dire que si... Bruno Latour a raison. C'est très choquant, la théorie Gaïa. La plupart des gens vont dire, mais non, ça ne coïncide pas avec ce que je sais par ailleurs. Ça crée une dissonance entre la culture d'aujourd'hui et ce qu'annoncerait cette théorie Gaïa. Alors, c'est quoi la théorie Gaïa? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'esprit des concepteurs de cette théorie, qui sont James Lovelock et Lynn Margulis? Qu'est-ce qu'ils ont imaginé d'aussi provocateur, d'aussi troublant, d'aussi révolutionnaire pour le monde de la pensée? Eh bien, ils ont dit le message exactement symétrique de celui de Galilée. Galilée a dit la Terre, c'est une planète comme toutes les autres. Et Lovelock et Margulis, ils ont dit la Terre, c'est une planète unique. C'est la seule qui accueille la vie. C'est ça sa singularité, sa particularité.
Oui, mais dans les mythes grecs, Gaïa, c'est une horrible personne qui fait que grâce à Cronos et aux autres enfants, elle va se défaire du poids de son mari, Ouranos. Et ensuite, dans le récit d'Hésiode, bien sûr, hein, elle joue le rôle d'une puissance
elle
abominable,
fait peur.
Elle
oui.
fait peur.
Mais le Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu chrétien de l'Ancien Testament...
Ah, il y en a deux. Hein. Il y a Yahvé,
il
y a les Marianites et puis il y a les Égyptiens.
Il
alors
faisait
Freud
un peu peur,
lui-même,
hein. Il pouvait faire peur aussi. Hein. Il n'était pas que paix, amour et tranquillité.
Oui, mais il y a Noël. Alors je sais que certains vont chanter que Dieu a besoin d'être vengé de la faute de l'homme, mais d'autres vont dire non. Et Martin Pochon est venu ici nous dire que non, Jésus, il offre sa vie pour ses frères et même pour Pierre ou Judas. Il offre sa vie au lieu d'être une rançon à son père. Mais pour tout ça, pour
ça
vous, c'est
parle.
Des mythes.
Non,
autant
non, je pense que c'est des choses, des récits qui ont compté, qui comptent certainement aujourd'hui. Ce qui touche la jeunesse, c'est de se dire, on fait partie d'un monde qui se réchauffe. Le réchauffement climatique, c'est aussi effrayant que pouvait l'être pour les Grecs anciens l'horreur de Gaïa en tant que titan.
Et les tremblements de terre et les volcans.
Est-ce que le réchauffement climatique, c'est la nature? La nature, ça serait autre chose que les êtres humains. Mais on sait bien que c'est le gaz carbonique qui provoque le réchauffement. Donc la nature, la séparation entre nature et culture, tout ça, c'est quelque chose qui se mélange de plus en plus.
Oui.
Et donc le grand danger pour l'avenir, ce qui effraye la jeunesse, c'est qu'on n'arrive pas à résorber, à maîtriser le réchauffement climatique, qu'on part dans un emballement de l'écosystème Terre, et que cet emballement complètement non maîtrisé provoque la fin de la vie sur Terre. Donc pour éviter cet avenir terrible, eh bien, la théorie Gaïa, elle nous enseigne que la science, à l'époque, dans les années 60, quand on voulait envoyer une sonde sur Mars pour savoir s'il y avait de la vie, peut-être microscopique, eh bien, on s'est dit, mais non, en fait, pour savoir s'il y a de la vie sur Mars...
Il faut aller envoyer des satellites, et vous dites non, à la suite comme Lovelock, n'est-ce pas, encore un autre chercheur.
Il ne faut pas envoyer des satellites, justement.
Il faut chercher par la science.
On s'est aperçu de l'ignorance de la science sur les mécanismes de régulation de l'écosystème Terre. On s'est aperçu qu'on n'avait jamais examiné comment ça se fait que l'oxygène, qui est pourtant un gaz très très réactif, qui réagit avec tout, qui est complètement instable, eh bien il reste à un niveau très stable de 21% dans l'écosystème Terre. Et ça, en fait, c'était quelque chose dont on s'était juste pas posé la question, quelles sont les régulations qui font que ce gaz instable reste dans une proportion stable. Ce n'est qu'à partir des années 60, quand on a voulu comprendre mieux la vie, qu'on a posé la théorie Gaïa, que les scientifiques se sont dit, mais en fait, c'est vrai qu'on est ignorant de ces mécanismes de régulation. Comment ça se fait qu'il y ait cette stabilité? Eh bien, c'est comme un méga-organisme. C'est comme si la Terre était un être vivant à part entière, comme si elle était Gaïa. Voilà l'origine scientifique de la théorie Gaïa.
C'est ce qu'on appelle la postmodernité. On n'a plus trop confiance dans la science et on essaie d'être un peu plus modeste, un petit peu plus poète. Et pourtant, il faut faire de la politique et vous ne voulez pas en faire.
Je fais de la politique. J'aime la politique. Je pense qu'il faut plus de justice et que ça passe par le politique. Je pense aussi que, bien sûr, la laïcité nous apporte une séparation
entre le
valable
et
les croyances
Dieu et César.
Et la politique. Mais je me sens plus à ma place en essayant de contribuer à un courant culturel de l'écologie qui pourra ensuite renforcer et nourrir l'écologie politique. Je souhaite que l'écologie politique transforme les politiques capitalistes, impérialistes, productivistes et consuméristes qui détruisent le monde.
Et surtout, ici, vous n'avez pas voulu nous dire ou de dire officiellement dans toutes les associations fraternelles où vous travaillez pour construire des maisons en bois et pour être au niveau des échanges, de la philosophie et de la réflexion culturelle.
Mon activité...
On n'a que 3 minutes, n'est-ce pas?
Voilà, c'est pour ça que j'ai voulu me concentrer sur le groupe de philosophie auquel j'appartiens et qui se pose la question « L'écologie est-elle une nouvelle culture ?» Je souhaite développer l'écologie profonde, qui est un courant spirituel. Le courant spirituel de l'écologie profonde est très multifacette et je participe à ce mouvement à la Maison populaire de la philosophie de Toulouse.
Et c'est la planète bleue.
Peut-être.
C'est toute cette ouverture, n'est-ce pas, à une convivialité, quelles que soient nos appartenances confessionnelles. C'est une laïcité bien comprise, justement, de découvrir l'autre.
Oui.
Et de faire corps avec la nature.
Tout à fait. Donc on n'échappe pas à ses traditions, à son histoire. Et pour comprendre et sentir le sens de l'histoire et participer au renouvellement d'une culture qui fasse sens et qui aille vers un avenir souhaitable, désirable, un avenir heureux, eh bien pour aller vers cet avenir heureux en comprenant le sens passé très ancien de l'histoire, il faut, je pense, en tout cas ce que j'essaie de faire, comprendre d'où on vient en termes de système de croyance, à quoi ça a rimé en fait le christianisme pour construire quelque chose qui réponde aux angoisses d'aujourd'hui. Et, alors, qui constitue un avenir heureux, un avenir désirable, c'est-à-dire un avenir où toute la place est faite à la vie sur Terre.
Et l'on peut s'en sortir tout seul? Il n'y a pas besoin d'une place pour une providence ou pour une force extraterrestre ou métaphysique qui nous aide?
Nous, les êtres humains, nous ne sommes pas seuls. Nous avons des alliés dans le monde du végétal et dans le monde de l'animal. Des alliés, par exemple... Il y a l'amarante, c'est une super graine, une super mauvaise herbe qui a permis de lutter contre les OGM, les organismes génétiquement modifiés. Et c'est une graine qui résiste au glyphosate. Et du coup, quand on a semé ces graines-là dans les champs d'OGM, eh ben les industriels, ils n'ont pas pu continuer à récolter des maïs OGM ou du soja OGM. Et donc, c'est une alliance. Les écologistes, ils font alliance avec d'autres espèces. Tu viens de me demander... Est-ce que nous sommes seuls face aux défis de l'avenir? Et je te dis, nous ne sommes pas seuls, nous avons des alliés qui sont les autres êtres vivants.
Et
nous sommes
permet...
avant tout des êtres vivants, avant d'être des êtres humains, on est des êtres vivants. Et nous avons ces alliés-là.
Et ça permet de lutter contre les injustices,
oui.
Contre les inégalités?
C'est ce que je viens de décrire, c'est ce que je souhaite effectivement promouvoir, c'est ce en quoi je crois très fortement.
Ce sont vos convictions, ce début d'année 2022. Merci pour votre enthousiasme, merci pour votre sourire et votre calme. En même temps, ça n'empêche pas vos convictions profondes. Contre la peur, contre le désintérêt ou le relativisme, nous disons aussi merci à Christophe pour son aide à l'enregistrement. À bientôt, Jean-Baptiste.
À bientôt.